avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
13h45 minutes. On tire à sa fin pour l'émission On en jase. C'est le retour de Gravel qui suit avec Denis, Audrey et Véro. Nicolas qui nous écrit au 418-971-1021. J'étais sur la liste pour des billets aux Jeux olympiques de 2028. J'ai changé d'idée quand j'ai vu les prix. 28 500 $ US pour 3 personnes, voir la cérémonie de fermeture. 9 000 $ pour l'athlétisme, n'incluant même pas le 100 mètres. Hey. Ouais, quand on dit qu'on ne peut plus amener nos familles dans le sport, c'est un très bel exemple. Je suis très content que notre prochaine invité ait accepté de nous parler parce que je trouve que c'est une histoire très touchante, mais en même temps une histoire qui pourrait avoir une très belle répercussion. Et j'aime beaucoup qu'on prenne ce que les gens ont vécu et qu'on rende ceci positivement. Je pense notamment à la loi Gabi Renault ici au Québec par rapport aux femmes victimes de violences conjugales. Puis vous le savez, moi personnellement, j'ai créé un fonds philanthropique au nom de mon amie Catherine qui est décédée beaucoup trop tôt du cancer. On va s'entretenir avec Luc Berthold qui est député du Parti conservateur du Canada pour la circonscription de Mégantic, l'Érable-Lobinière. Monsieur Berthold, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien. Monsieur Berthold, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous parler de votre histoire personnelle qui va se transformer de façon positive, j'en suis convaincu. J'ai lu, comme plusieurs personnes, l'article sur Radio-Canada ce matin. Et ce que je comprends, c'est que malheureusement, à l'âge de 28 ans, votre fils a décidé de s'enlever la vie.
Oui, effectivement, le 10 février 2025, David a choisi... à notre surprise de s'enlever la vie. Quoi, c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois en peu de temps. La première fois, on avait pu intervenir, mais la deuxième fois, malheureusement, on n'a pas été là, on n'a pas été capable. Puis tout ça était l'aboutissement de plusieurs années de consommation. Mm-hmm. Donc, dans le fond, David a été bien, il a été moins bien, il a été très bien, il a été moins bien. Il a été très, très, très bien. Il a eu deux enfants avec sa conjointe, deux charmant petit bonhomme qui aujourd'hui malheureusement sont des orphelins. Donc c'est un drame avec et moi et mon épouse, on a choisi d'en parler publiquement parce qu'on veut faire quelque chose, justement, comme le dit bien Caro, pour donner un sens à quelque chose qu'il n'y en a absolument pas.
Premièrement, bravo pour votre courage. Franchement, je le salue. Je vous envoie plein d'ondes positives également. Ce que je comprenais, c'est que David a eu ses bons moments, mais a eu ses moments aussi où il est tombé très bas dans la toxicomanie.
Oui, effectivement. Puis il est tombé très bas, mais en même temps, il a toujours été, ou presque, là, assez fonctionnel. Il y a eu une période là, qui a été vraiment plus difficile, mais... pendant sa jeunesse, il était quand même très bon à l'école, il avait des bons résultats. Il a commencé avec une brosse, on dira plusieurs commencent comme ça, mais il était jeune un peu, 13 ans. On a agi pour cet événement-là, mais pour le reste, ça a été plus difficile parce que bon, il nous a pas avisé qu'il avait commencé à fumer du cannabis, par exemple. Puis à un moment donné, on reçoit un appel d'école qui veut fouiller sa case. Puis à un moment donné, l'école fait venir un chien, ils veulent fouiller son auto. Mais David s'en était toujours sorti quand même bien. Jusqu'à un moment donné, il est arrivé un événement dans sa vie qui l'a secoué comme faux. C'est là qu'il a vraiment tombé. Tombé jusqu'au point où un jour, il s'est fait arrêter pour trafic de drogue. Ah, c'est du crack. Fait que c'était pas n'importe quoi. C'est ça qu'il consommait aussi. Et cette arrestation-là, lui, a... je pense qu'il a frappé son mur. Hein. C'est ce qui fait en sorte que il s'est mis à aller bien, rencontrer sa conjointe avec qui il a eu deux beaux petits-enfants. Un jour, sans qu'on s'en doute, probablement lors d'une rencontre fortuite, il a recommencé juste à essayer une fois. Là. Puis la fois a mené une autre fois, jusqu'à ce qu'on reçoive un appel pour nous dire qu'il avait tout passé sa paye puis qu'il avait plus d'argent pour mettre de la nourriture dans le frigo pour la fin de semaine. Pour les enfants, c'était abominable. C'était sa limite, là, lui. Et c'est là que tout a dégringolé très, très vite jusqu'à l'événement tragique du 10 février.
vous étiez une famille présente, votre conjointe et toi pour votre conjointe et vous, pardon, pour votre fils. Parce que, tu sais, des fois, il y a une réalité qui peut faire en sorte que, bon, ça dépend du milieu dans lequel les enfants sont élevés. Ça peut être des fréquentations à l'école aussi. Mais je trouve que votre histoire représente ce qui peut malheureusement arriver à n'importe qui. Même si on est dans un bon milieu, d'où, je pense, votre demande auprès du fédéral d'établir ces mesures-là pour venir en aide aux plus jeunes citoyens. À quel moment, vous, M. Berthold, vous étiez peut-être face à votre conjointe puis vous vous êtes dit, là, on n'a plus de ressources, là, on ne sait plus comment faire pour aider notre fils?
C'est arrivé souvent. C'est arrivé à plusieurs fois. C'est arrivé quand il était au secondaire. C'est arrivé quand il a eu sa dérape, là, sa période de dérape, comme j'appelle, là, celle qui a amené à son arrestation. On lui a fait voir des psychologues. On a tenté de faire des choses. Mais David, aller jusqu'à son arrestation depuis l'âge de 13 ans, ça en était toujours sorti quand même pas si pire. Il y a toujours une solution. Il s'est jamais fait arrêter. Donc, il n'avait pas eu ce mur-là dans sa jeunesse. Et quand on lui demandait s'il voulait suivre un traitement ou quelque chose, la réponse était toujours non. Même à la fin, après son arrestation, il n'a pas voulu aller faire une cure fermée nulle part. Il faut dire qu'on ne l'a peut-être pas aidé. On l'a amené dans un centre de traitement juste en face de la prison de Trois-Rivières. Il a passé une nuit avec un criminel endurci qui faisait peut-être sa 10e visite au centre de traitement. Donc, c'était peut-être pas la meilleure place. Mmh. On est allé le rechercher, mais après ça, quand même, de passer une nuit-là, ça a été le deuxième coup. Là, il a voulu vraiment se reprendre en main. Il voulait pas finir comme ça. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, même on parlait, quand ça allait bien avec lui, qui avait commencé à avoir ses enfants, on a eu un échange, lui et moi, à un moment donné, puis on s'est dit, pourquoi, David, on ferait pas des conférences ensemble pour dire comment tu t'en es sorti? Pour montrer aux autres que c'est possible de le faire. Mm-hmm. Mais malheureusement, vous voyez, c'est fragile. Hein? Même lui n'a pas été capable de réussir totalement. C'est jamais rendu là. Donc, moi et mon épouse, on a dit on va prendre le relais puis on va faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire avec David.
Ah, c'est tellement beau, M. Berthold. Pour rappel, on parle avec Luc Berthold, député du Parti conservateur pour la circonscription de Mégantic, l'Érable-Binière. Monsieur Berthold, concrètement, le projet de loi que vous allez proposer, c'est le projet de loi 231, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il changerait pour l'encadrement des jeunes qui ont des problèmes, comme David avait, de dépendance et de santé mentale?
Ce qu'on peut dire, si vous voulez, au lieu de l'appeler 231, on peut l'appeler le projet de loi pour les amis de David.
Ça, c'est tellement une bonne idée. Ouais.
Je pense que c'est comme ça qu'on doit le connaître aussi, parce qu'un chiffre, c'est impersonnel. Si on parle des amis de David, je veux vraiment qu'il reste quelque chose de lui de positif. Donc, je vais l'appeler comme ça, si vous voulez. Le projet de loi vise à permettre aux jeunes qui se font arrêter pour une possession de drogue ou pour un crime, un délit relié à la consommation problématique de substances, d'être référé par un juge, par un procureur ou par un policier à un centre de traitement plutôt que de se faire taper ses doigts avec une peine immédiatement. Mm-hmm. Ça permet au juge de reporter sa sentence après le traitement du jeune. Et si le jeune, effectivement, s'en tire bien dans son traitement, bien, il peut s'en sortir là sans peine et continuer sa vie normalement dans la société, guéri de cette dépendance-là. Et quand je dis guéri, il semble qu'on ne guérit pas vraiment d'une dépendance, mais au moins, si le jeune consommait parce qu'il y avait un autre problème, un trouble de santé mentale, par exemple, ou un trouble social, ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas voir nécessairement à la maison parce qu'on n'est pas outillé pour ça, ça permettrait d'avoir au moins ce diagnostic-là dans la vie d'un jeune, puis de l'avoir le plus tôt possible quand le jeune commence ce cercle infernal de consommation, je pense que c'est là qu'on a le plus de chances d'aider. Puis je tiens à dire quelque chose, je veux pas que tous les parents se mettent à fouiller les sacs de tout le monde. Ce n'est pas tous les jeunes qui sont comme ça, puis c'est pas tous les jeunes qui ont fumé un joint qui vont terminer comme ça. C'est pas le cas. Le problème, c'est qu'on ne sait juste pas si ça va finir de même. Mm-hmm. La majorité des jeunes s'en sortent bien, puis c'est une période d'adolescence. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a pensé, nous autres aussi, au début, que c'était, bon, l'adolescence, ça va passer, mais pour David, ça n'a pas passé. Il est arrivé, comme j'ai dit, quelque chose de tragique dans sa vie, puis ça a été la débandade pour une première fois. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui font ça pour des expériences d'adolescents, puis c'est correct. Mais il ne faut pas échapper ceux qui Peut-être que la consommation de drogue cache un autre problème sérieux au niveau de la santé mentale ou autre. Là. C'est pour ça qu'on a mis ça en place, pour donner cette opportunité-là au juge. Le juge peut ordonner le traitement pour reporter sa peine. Si le jeune refuse, il a le droit, parce que je voulais pas m'embarquer dans un débat contre la Charte canadienne des droits et libertés et contre la Constitution. Vous savez qu'on aurait parlé pendant des années. Donc, il y a une possibilité pour le jeune de ne pas le suivre, mais ça sera une première décision à lui dans ce cas-là. Et il devra faire face et assumer la responsabilité de ses actes. Là.
Monsieur Berthol, on vous félicite pour votre force, on vous félicite pour le travail que vous faites, puis on va souhaiter ardemment que le projet de loi des Amis de David soit adopté à la Chambre des communes.
Ben écoutez, j'ai déjà l'appui de tous les partis politiques, même en comité, tout le monde appuie le projet de loi. Je pense qu'on a touché une corde sensible. Tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage ou très, très près qui a passé à travers ces problèmes-là. Si on peut apporter une petite solution et sauver ne serait-ce qu'un seul jeune du sort qui a été réservé aux mains, ben je pense qu'on va avoir réussi quelque chose de grand.
Monsieur Berthol, bravo, félicitations, puis on vous souhaite bonne continuité.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. C'était Luc Berthol, le député du Parti conservateur du Canada. Nate, compte tenu qu'on a déjà dépassé le temps, on fait quoi? Que justement, le retour de Gravel fait souvent. On met ça dans le parking, puis on se reparle de ça demain.
Parfait. Numéro 1, on fait ça.
Excellent, le retour de Gravel suit avec Denis Audrey. Véro. Gravel.